l'heure du journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Donald Trump choisit l'escalade dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine. Il annonce de nouvelles sanctions envers Pékin. Tous les produits chinois importés seront surtaxés. Comment et pourquoi ? Réponse dans un instant.
Nous irons ensuite à Hong Kong où un nouveau jour de manifestations et de tensions a débuté. Les fonctionnaires, pour la première fois, sont mobilisés contre le gouvernement pro-Pékin et pour la démocratie.
Tout rassemblement en hommage à Steve Maya Kanissa et Canisso est interdit demain à Nantes sur décision de la préfecture. Explication et réaction de la mairie de Nantes dans ce journal.
Nous analyserons aussi les dégradations de permanence de députés de la majorité. Elles se multiplient. Le député apparaît comme le représentant de l'État et non plus du peuple. Vous le comprendrez dans ce journal.
Et puis que deviennent les deux conteneurs renvoyés d'Indonésie vers la France en début de semaine ? On ne sait pas qui est l'expéditeur ni même ce qu'ils contiennent vraiment. Vous le comprendrez. Donald Trump a la Chine dans son viseur en réunion publique hier soir en vue de sa réélection lors de la présidentielle 2020 aux États-Unis. Il s'en est pris ouvertement à Pékin.
Ces 20 dernières années, la Chine nous a pris des centaines et des centaines de milliards de dollars. Et maintenant, nous mettons un terme à ce vol. Vous savez quoi ? Je pense qu'ils veulent essayer de trouver un accord avec nous, mais je n'en suis pas sûr. Ils sont en train de prier, ils aimeraient qu'il y ait un nouveau président dans un an et demi, afin qu'ils puissent continuer à arnaquer les États-Unis, comme ils le font depuis 25 ans.
Voilà pour la nouvelle provocation de Donald Trump, alors que les deux pays sont en train de négocier pour trouver une fin à la guerre commerciale. Le président américain accuse Pékin de ne pas avoir tenu sa promesse d'achat de denrées agricoles américaines. Et pour la première fois, il s'en prend directement à son homologue chinois, Xi Jinping. Il lui reproche de ne pas avoir bloqué l'afflux d'opiacés chinois outre-Atlantique. La sanction va donc tomber. Donald Trump veut surtaxer une nouvelle liste de produits chinois importés aux États-Unis. Pierre-Yves Dugas.
L'annonce par tweet de Donald Trump revient à dire qu'à partir du 1er septembre, la totalité des importations chinoises fera l'objet d'une surtaxe. Les premiers 250 milliards de dollars de produits chinois étaient avant tout industriels et ils sont déjà surtaxés depuis septembre 2018 à hauteur de 25%. La nouvelle liste de 300 milliards qui sera visée à compter du 1er septembre couvrira par définition le reste, c'est-à-dire des produits de grande consommation, électroniques comme les télévisions, les téléphones portables, mais aussi des vêtements et des chaussures, surtaxés à hauteur de 10%. Les milieux d'affaires s'alarment, ils doutent que Pékin accepte de continuer de négocier si ces nouvelles sanctions sont imposées. Ils redoutent aussi que Pékin applique rapidement des mesures de rétorsion pénalisant leurs activités et leurs ventes en Chine. Le scénario d'une longue guerre commerciale se prolongeant au moins jusqu'aux élections américaines de novembre 2020 devient crédible. La croissance mondiale va en souffrir, ce qui explique d'ailleurs la forte chute des cours du pétrole dès l'annonce faite par la Maison-Blanche.
Une chute de 8% en effet hier soir. Idem pour les principaux indices boursiers à Wall Street qui ont fini dans le rouge et pour la bourse de Tokyo. Le chef de la diplomatie chinoise a répondu cette nuit depuis Bangkok où sont réunis d'ailleurs des représentants russes et américains. Ces nouveaux droits de douane, dit-il, ne sont pas constructifs. Bangkok où justement des bombes ont éclaté ce matin provoquant de petites explosions dans la ville. Deux personnes ont été blessées selon les autorités. La guerre commerciale décidément encore et cette fois entre le Japon et la Corée du Sud. Séoul ne bénéficiera plus du traitement particulier de la part de Tokyo, une mesure qui pourrait aggraver les tensions bilatérales. Pour preuve, déjà la Corée du Sud promet de répliquer sévèrement ce matin. En bref, encore, est-ce le début d'un réarmement des grandes puissances ? En tout cas, les États-Unis sortent officiellement aujourd'hui du traité INF qui date de la guerre froide. Ce traité abolissait l'usage de toute une série de missiles d'une portée variant de 500 à 5500 km. La Russie sort également de ce traité, ce qui rend le texte caduque. Ce serait un cessez-le-feu sous condition. En Syrie, le régime dit accepter de baisser les armes à Idlib. Cette région du nord-ouest du pays, près de la Turquie, est la dernière tenue par l'opposition dite rebelle. Elle est pilonnée depuis fin avril par Damas et par son allié russe. Un cessez-le-feu donc est donc valable sur place depuis hier soir, à condition que l'accord de désescalade conclu en septembre dernier entre la Russie et la Turquie, à condition que cet accord soit appliqué. Voilà ce que dit le régime de Bachar el-Assad. Reste que sur place, les civils s'entassent dans la peur. Nadim Houri, directeur du think tank Arab Reform Initiative, nous expose ce matin les enjeux dans cette région.
Idlib, c'est pas simplement une poche géographique, c'est quelque part aujourd'hui le lieu de refuge de millions de Syriens. Et on parle, selon les chiffres des Nations Unies, presque un demi-million de Syriens ont été déplacés ces trois derniers mois. Il y a une tragédie humaine qui a lieu dans une indifférence totale, une indifférence déjà régionale, une indifférence européenne et internationale. Et il y a un enjeu stratégique, parce que c'est aussi, Idlib était censé être un peu la preuve de la réconciliation et du plan turco-russe. C'était censé être un peu leur pierre à l'édifice de la paix en Syrie. Ces trois derniers mois à Idlib, rien n'a changé sur le terrain, à part que les gens vivent de plus en plus dans la misère.
Des propos recueillis par Christian Chesneau pour France Culture. Partons maintenant à Hong Kong, où des milliers de personnes sont toujours mobilisées pour la démocratie et contre le gouvernement pro-Pékin. Cela dure depuis près de deux mois maintenant. Mardi dernier, pour la première fois, 44 manifestants ont été inculpés pour émeute. Et cela n'a pas l'air de dissuader les autres, Simon Le Plâtre.
Tous les matins, la vie reprend son cours à Hong Kong. Le flot d'employés en costume traversant les rues propres ferait oublier que presque tous les soirs, désormais, une action a lieu pour dénoncer une loi d'extradition vers la Chine et demander plus de démocratie. Hier soir, ce sont les banquiers qui ont pris la rue. Des centaines d'employés du secteur financier très puissant à Hong Kong se sont rassemblés dans le quartier d'affaires pour se joindre au mouvement de protestation qui a déjà mis dans la rue près de 2 millions de personnes. Ce soir, ce sont les fonctionnaires qui prennent le relais. Au moins 2000 d'entre eux ont annoncé qu'ils se retrouveraient dans le centre pour dénoncer leur propre administration. Un symbole fort puisqu'ils sont soumis au devoir de réserve. Hier, le gouvernement de Hong Kong leur a d'ailleurs rappelé qu'ils devaient montrer une loyauté totale aux dirigeants de Hong Kong sous peine de s'exposer à de graves conséquences. Ce week-end, d'autres manifestations sont prévues, dont une dans le quartier populaire de Mong Kok, qui a déjà été interdite par la police. De quoi s'attendre à de nouveaux affrontements au cœur de Hong Kong. Et lundi, un appel à la grève générale a été passé, repris dans beaucoup de secteurs. Là encore, c'est exceptionnel, alors que la culture du travail fait partie de l'identité de la ville. Pour les contestataires plus modérés, c'est une manière de maintenir la pression pacifiquement, alors que les manifestations sont de plus en plus violentes face à un gouvernement qui fait la sourde oreille.
Simon Le Plâtre, depuis Hong Kong ce matin pour France Culture. Sitôt nommé Premier ministre, sitôt défait dans les urnes, le Britannique Boris Johnson a subi hier son premier revers. C'était lors d'une élection partielle dans le pays de Galles. Son parti conservateur n'a plus qu'une seule voix d'avance au Parlement britannique pour conserver sa majorité. Boris Johnson au pied du mur, à trois mois d'impossible Brexit sans accord. Il annonce donc un plan de financement de 2,3 milliards d'euros pour mieux préparer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cet argent servira notamment à stocker des médicaments, à embaucher des douaniers supplémentaires ainsi qu'à améliorer les infrastructures portuaires dans le pays.
Il est 8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. En France, maintenant, le rassemblement prévu à Nantes demain après-midi est interdit.
Interdit, oui, par la préfecture de Loire-Atlantique. Un hommage aurait été organisé pour Steve Maya Canisso, dont le corps a été retrouvé dans la Loire après une intervention de police sur un quai de Nantes. Une intervention de police justifiée et proportionnée selon l'IGPN. Pour protester, l'appel à la mobilisation de demain a été largement relayé et entendu, Marion Fersing.
Certains veulent aussi faire de ce rendez-vous un rassemblement contre les violences policières. Ça, plus la colère suscitée par le rapport de la police des polices sur l'intervention des forces de l'ordre à la fin de la fête de la musique. Le préfet craint que ça fasse venir des manifestants radicalisés de type Black Bloc. C'est ce qu'il écrit dans son communiqué. Il craint aussi des dégâts dans un centre-ville où il y en a déjà eu ces derniers mois lors des manifestations des Gilets jaunes. Il interdit aussi tout ce qui pourrait servir d'armes dans le centre-ville, là aussi de 10h à 20h. La vente et le transport d'artifices également, parce que ce genre de produit a déjà été utilisé pour blesser. Là, ça concerne toute l'agglomération nantaise, comme la vente au détail et le transport de carburant qui pourrait servir à faire des cocktails Molotov notamment.
Alors cette interdiction de rassemblement à Nantes est déjà critiquée ce matin sur les réseaux sociaux, critiquée aussi par une partie des élus régionaux. Elle désole par exemple Aymeric Sasso, il est adjoint à la mairie de Nantes.
Puisque le préfet nous dit qu'il faut respecter ces initiatives à la mémoire de Steve, quelle est sa proposition pour le bon déroulé de ces initiatives samedi à Nantes? Il n'y a rien, il y a des interdits, il y a la promesse de forces de l'ordre en nombre supplémentaire pour du maintien de l'ordre dans un pays où la politique de maintien de l'ordre est contestée par le Conseil de l'Europe, par le Défenseur des droits, par l'ONU, eh bien, on dit, on en fait plus, toujours plus.
Des propos recueillis par Ariane Grissel. 20 tonnes de fumier devant une porte, un local emmuré. Les dégradations de permanence des députés de la majorité se poursuivent. Plus d'une semaine après la validation par les députés français du CETA, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Dégradation à Paris et à Toulouse hier encore. Au total, une quinzaine de permanences ont été ciblées en un mois, sans compter les dégradations pendant le mouvement des Gilets jaunes depuis le mois de novembre. Christophe Bellon est chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po à Paris. Selon lui, ces événements révèlent une forme d'anti-parlementarisme en France. On vise, dit-il, de plus en plus les députés.
Le député, en l'occurrence de la majorité, n'apparaît plus comme le représentant du peuple, de la population, mais comme le représentant de l'État central. Et c'est ça, c'est ce basculement de statut du député qui est particulièrement difficile aujourd'hui à gérer parce que la démocratie représentative ne joue plus le rôle d'intermédiaire qu'elle jouait entre le peuple qui l'élit et les représentants du pouvoir central.
Ça fait écho aussi à ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a eu là un cap de franchi ?
Alors, je dirais que nous avons des exemples quand même dans le passé, notamment sous les 3e et 4e républiques, où on peut voir ce type d'insurrection très forte. Ce sont les crises viticoles des années 1907-1908, ce sont les crises agricoles des années 30, mais toutes ces tensions fortes avaient été réglées par les élections législatives qui avaient suivi. Là, nous sommes dans un moment où, sous la 5e, apparaît cette forte violence, nouvelle encore une fois, puisqu'adressée nominativement contre le parlementaire de la circonscription, et qui est un écho en quelque sorte à ces fortes tensions d'antiparlementarisme du passé, mais qui ne trouve pas encore de solution du fait dans lequel nous nous trouvons, qui est entre deux élections législatives et qui n'est pas réglé par de nouvelles élections. Voilà, c'est ça qui est en quelque sorte le nœud du problème aujourd'hui.
C'était l'historien Christophe Bellon, il répondait à Sophie Delpont. On en sait un peu plus sur les trois hommes mis en examen la semaine dernière pour un projet d'attentat en France. Ils avaient amassé des armes et prêté allégeance au groupe État islamique. Des preuves retrouvées ces derniers jours par les enquêteurs. Il n'est plus condamné à la prison à perpétuité. Un tribunal indonésien a ramené à 19 années d'emprisonnement la peine du Français Félix Dorfin en Indonésie. Il avait été condamné dans le pays en mai dernier, accusé de trafic de drogue. L'Indonésie qui renvoyait par ailleurs lundi dernier deux conteneurs de déchets plastiques vers la France, comme l'avaient fait avant vers l'Occident les pays d'Asie du Sud-Est. Ils protestent tous contre des cargaisons chargées de produits toxiques ou non recyclables. Que va-t-il donc se passer pour ces deux conteneurs français ? C'est pour l'instant plus que flou, Lisa Guillen.
5 jours après leur départ du port de Batam en Indonésie, on ignore encore tout ou presque de ces deux conteneurs en route pour la France. Dès lundi pourtant, la secrétaire d'État Brune Poirson disait avoir demandé des détails aux autorités indonésiennes. Le contenu des cargaisons, la nature des illégalités, le nom des expéditeurs, l'itinéraire prévu ainsi que le port de destination. Mais depuis ce tweet, pas de nouvelles. On attend la réponse de l'Indonésie, mais pour l'instant on ne sait rien, indique un conseiller du ministère. Honnêtement, c'est un secteur très opaque, précise-t-il. Même son de cloche du côté des associations environnementales. Thibaut Turchet est juriste chez Zero Waste France.
Ce qui est sûr, c'est que les déchets sont des déchets qui ont fait l'objet d'un tri en centre de tri. Ensuite, le cheminement des camions, l'envoi vers des ports et ensuite le transport maritime, pour nous, est extrêmement compliqué à tracer. Et là, ce sont les industriels qui devraient s'expliquer. Malheureusement, ils sont assez silencieux, en fait, hein, sur le cheminement. Les transporteurs, je pense, ne sont pas regardants, évidemment, sur les containers. La responsabilité, c'est qui mais ces déchets-là dans les containers. Et ça, aujourd'hui, c'est complexe à savoir. En tout cas, il y a sans doute quelqu'un qui sait.
Celui qui sait, c'est Citeo, l'éco-organisme responsable de la collecte des déchets en France. C'est lui qui subventionne les entreprises du recyclage à condition qu'elles déclarent la destination des déchets en prouvant qu'ils soient bien recyclés. Le cas de l'Indonésie montre donc une faille dans le système. Citeo dit être en mesure de donner des informations sur ses revendeurs, mais seulement si l'État déclenche une enquête administrative. Procédure qui demande au préalable des détails sur les deux conteneurs. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. On en revient au point de départ. Sans réponse de l'Indonésie, la situation reste bloquée.
Pour en savoir plus sur ce trafic de conteneurs dans le monde, rendez-vous sur notre site internet franceculture.fr. Quelques averses sont encore attendues ce vendredi sur l'est de la France. Le ciel partout ailleurs sera changeant entre nuages et soleil, avec des températures toujours estivales. Ce matin, il fait 21 degrés à Lille, 23 à Rennes, Paris et Strasbourg, 24 à Lyon et déjà 29 degrés à Marseille.